Bonjour à tous, je suis Caroline Dubois, l'hôtesse de cette seconde édition du Sommet mondial de la réussite. Si vous voulez en savoir plus sur la réussite et savoir si la chance n'est réservée qu'à quelques-uns, cette conférence vous amènera des réponses. J'ai la grande joie de vous présenter le dynamique et talentueux Jean-Philippe Hulin de libertéfinancière.be. Jean-Philippe, pour ses intimes et pour ses nombreux clients, est un génial entrepreneur et un conférencier hors pair. D'origine très modeste, Jean-Philippe a connu des années de galère après avoir été au SMIC sans emploi et pourchassé par des huissiers peu commodes pour avoir accumulé plusieurs dizaines de milliers d'euros de dettes personnelles à l'âge de 27 ans. On le surnomme le prince du MLM pour multi-level marketing. Il a publié deux best-sellers dont La liberté financière en 7 étapes. Il donne des formations dans le monde entier et a été classé parmi les 100 plus grands mentors du monde par le site Business Forum. Aujourd'hui, Jean-Philippe vit en Belgique. Lors de cette conférence, Jean-Philippe répondra à toutes les questions qu'on est en droit de se demander à propos des gens à qui tout semble réussir. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence. Comment libérer votre génie positif en un clic? Et joignez-vous à moi pour accueillir Jean-Philippe Hulin. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Caroline, merci de ton accueil.
Avec plaisir. Alors dis-moi un petit peu tous ces secrets des gens à qui tout semble réussir. De quoi tu vas nous parler exactement?
Eh bien, on va commencer par un poème soufi. Les poèmes soufis sont souvent pleins de sagesse. Et il y en a un en particulier qui est très adapté à la formation d'aujourd'hui. Alors si tu permets, je vais le citer, d'accord?
Oui, parfait.
Alors, c'est parti. J'ai demandé de la force et j'ai reçu des épreuves pour me rendre fort. J'ai demandé de la sagesse et j'ai reçu des problèmes à résoudre. J'ai demandé la prospérité et j'ai reçu un cerveau et des muscles pour travailler. J'ai demandé du courage et j'ai reçu de l'adversité à combattre. J'ai demandé l'amour et j'ai reçu des gens à aider et à câliner. J'ai demandé des faveurs et j'ai reçu des opportunités à saisir. Je n'ai rien reçu de ce que je demandais et pourtant j'ai reçu tout ce dont j'avais besoin. C'est un chouette poème parce que aujourd'hui, dans la société actuelle, on a beaucoup tendance à se plaindre, à dire que les choses vont mal, et des choses comme ça. Et ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est qu'il y a eu un président des États-Unis qui s'appelait John Fitzgerald Kennedy, et il a fait un jour un discours qui a vraiment marqué beaucoup de monde, et qui a survécu à sa mort. Et le thème de ce discours, c'était « Don't ask », c'est « ne demandez pas ». Il expliquait qu'il fallait cesser de demander au gouvernement, cesser de demander au patron et qu'il fallait prendre la responsabilité. Il expliquait que quand on demande, on reçoit peu, mais quand on donne, on reçoit beaucoup. En gros, si vous plantez peu, vous récoltez peu. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est apprendre à faire ça, à donner beaucoup, à arrêter de demander, et on va le faire en un clic. Qu'en penses-tu?
Moi, je trouve ça génial.
Ok. Alors la première chose par laquelle il faut commencer pour bien se mettre en phase avec l'énergie positive que chacun et chacune possède en soi, c'est reprogrammer les pensées dominantes. On a tous en nous des pensées dominantes et notre bien-être et notre comportement sont étroitement liés à ces pensées qui dominent et qui emplissent notre esprit. Pardon. Et en fait, l'équation, elle est fort simple. Nos pensées déterminent notre attitude détermine nos actions, et nos actions déterminent nos résultats. Donc pour modifier positivement un résultat précis, ce qu'on doit simplement faire, c'est modifier les pensées dominantes sur le sujet donné. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, tout à fait.
Et donc, évidemment, on est tous influencés par l'éducation qu'on a reçue de nos parents, des enseignants qu'on a côtoyés, des amis qui étaient les nôtres ou qui sont les nôtres durant notre enfance, les collègues, etc. Mais ça ne signifie pas qu'on a l'obligation de baser tout notre schéma de pensée, toute notre vie sur ces préceptes. Tu vois ? Oui. Dès qu'on entre dans la vie adulte et qu'on quitte, par exemple, le cocon familial, on devient responsable à 100% des résultats qu'on reçoit ou qu'on rencontre.
Oui.
Et comme ces résultats, ils sont toujours induits par les pensées qui nous dominent et que nous sommes libres de penser ce que bon nous semble, on peut, si nécessaire et si on le désire, modifier certaines de ces pensées dominantes comme bon nous semble. Et le meilleur moment pour reprogrammer ces pensées, pour se reprogrammer mentalement, c'est lorsque vous allez vous coucher. Quand vous êtes sur le point de vous endormir et que vous allez laisser place à l'inconscient, au subconscient. Par exemple, en répétant mentalement certaines pensées positives et précises chaque soir durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois lorsque c'est nécessaire, au moment de s'endormir, eh bien, c'est le meilleur moyen de s'auto-hypnotiser pour le meilleur. Il suffit d'y réfléchir un instant, en fait. La grande majorité des pensées qui circulent dans notre esprit, dans l'esprit des gens qui nous écoutent aujourd'hui, est le résultat d'un endoctrinement et d'une hypnose répétée par nos parents, nos enseignants et aujourd'hui la presse écrite et la presse télévisée. Et pour contrer ce processus qui est néfaste, eh ben, il n'y a qu'une seule solution, Caroline, c'est de se driller à contresens de ce qu'on nous a toujours dit. Tu vois ?
Oui, oui, tout à fait.
Donc c'est relativement simple, tout le monde est obligé de dormir, tout le monde est obligé d'aller se coucher chaque soir, et c'est un bon moment pour se recentrer sur soi et reprendre le contrôle de nos pensées. Alors le truc, il est super simple, c'est un exercice que je suggère à tous les auditeurs, c'est lorsqu'on sent que le marchand de sable est en train de s'emparer de nous et qu'on va succomber et se retrouver dans les bras de Morphée, eh bien il suffit de se parler à soi-même au présent en disant, par exemple, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Je réussis tout ce que j'entreprends, rien ne m'est impossible, les gens m'apprécient, les gens m'estiment, je suis un grand orateur, je suis un excellent père de famille, mes enfants m'adorent, je suis quelqu'un de bien. Et à force de répéter ça en s'endormant, ça va donner un résultat totalement extraordinaire parce qu'on va se driller à l'envers. On a tous entendu les phrases bateau du style « arrête de rêver, ça n'est pas pour toi ». Tu n'es qu'un fils d'ouvrier, ne l'oublie jamais. Fais profil bas. Tu vois, toutes ces phrases qu'on a entendues encore et encore et encore, on peut les contrecarrer. Alors, ensuite, une fois qu'on a commencé ce processus, parce que c'est un processus, et ce qu'on vient de décrire n'est qu'une étape, il faut prendre conscience d'autre chose lorsqu'on est éveillé. Parce que nous endoctriner à l'envers lorsqu'on s'endort, c'est bien, mais on laisse place au subconscient. Ce qu'on peut faire aussi, c'est influencer notre conscient, c'est-à-dire lorsque nous sommes éveillés. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui.
Ok. Alors, aujourd'hui, on écoute les messages qui dominent, il y a un bruit comme ça, il y a un bruit de fond en permanence, on allume la radio, il y a des mauvaises nouvelles. On allume la télé, il y a des mauvaises nouvelles. On ouvre un journal, il y a des mauvaises nouvelles. Et ça n'arrête pas encore et encore. Et donc, on peut dire d'une certaine manière que le début du 21e siècle est propice à une sorte de déprime globale, une déprime globalisée. On nous dit que l'économie est mal en point, la presse en fait ses choux gras absolument chaque jour, les politiciens, ils ont l'air impuissants, ou ils font des promesses qu'ils ont beaucoup de mal à tenir, les patrons sont sous pression, les travailleurs en ont marre. Et donc du coup, nombreux sont ceux qui vont tomber dans le cynisme, en se moquant par exemple des institutions ou de la situation. C'est une réaction humaine qui est bien compréhensible, mais par contre, elle est très nuisible à votre bien-être et à votre avenir. Parce que le cynisme, quand on est moqueur, on se ferme aux bonnes idées et à la réalité qui est bien moins noire que ce qu'on veut bien nous dire. Si on apprend à développer notre esprit critique et à observer le monde avec un certain recul, avec un certain détachement, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir qu'on nous dit que c'est la crise, et pourtant, les galeries commerciales fourmillent de monde, tous les jours, même en période hors solde. Si on prend un peu de recul, on va aller, par exemple, dans un aéroport, on va voir que ça grouille de gens partout et que les parkings sont pleins comme des œufs. Si on fait un peu preuve de recul, on va s'arrêter un instant sur un carrefour et on va observer les véhicules qui passent. Et on va se rendre compte, si on habite en Europe de l'Ouest, on va se rendre compte qu'il est très difficile aujourd'hui de trouver une voiture ou un véhicule qui a plus de 10 ans et qui est en circulation devant nous. Tu vois ce que je veux dire?
Oui,
tout ça, ce sont
vrai.
Des faits qui viennent à l'encontre de ce qu'on nous dit. On nous dit que c'est la crise. Mais qui avait un smartphone il y a 5 ans? Qui en a un aujourd'hui? Qui avait l'Internet mobile il y a 5 ans? Qui a Internet mobile aujourd'hui? Qui partait en vacances à crédit il y a 5 ans ou il y a 10 ans? Moins de gens qu'aujourd'hui. Et donc, oui, on traverse une période un peu difficile, mais faut pas exagérer quand même. Et comme dirait, tu connais Jean-Claude Van Damme?
Oui.
Jean-Claude Van Damme est un acteur belge mondialement connu, dont on se moque souvent, parce qu'il a des interventions un peu décalées. Mais Jean-Claude Van Damme, il est peut-être comique sur certains aspects, mais il n'a pas tort sur tout. Et par exemple, lorsqu'il dit « il faut être aware », c'est une des phrases qu'il a rendue célèbre. Mais être aware, ça signifie être conscient. Par exemple, être conscient qu'il suffit de toucher un interrupteur pour que la lumière soit. Qu'il suffit de tourner un robinet pour régler la température de l'eau au degré près. Être aware, c'est se rendre compte qu'on a l'air un peu con lorsqu'on est face à notre frigo et qu'on dit « je ne sais pas quoi manger ». Être aware, c'est se rendre compte à quel point on est insultant vis-à-vis de milliards de gens lorsqu'on est planté devant notre garde-robe et qu'on dit « je ne sais pas quoi me mettre ». C'est ça être aware, c'est se rendre compte que lorsqu'on rentre dans notre voiture, qu'en un tour de clé, le moteur ronronne, la climatisation se met en marche ou la radio s'allume et le siège se règle électriquement. Et on dit que c'est la crise. Être aware, c'est se rendre compte qu'on reçoit la visite d'un médecin, d'un homme ou d'une femme qui a fait des études universitaires, qui pratique son métier 12, 15, 16, 17, 18 heures par jour, et il se présente chez nous en un seul coup de fil. Tout ça, c'est pas la norme. Tout ça, c'est pas la norme mondiale. Ces simples actions, ces simples choses qu'on vient de décrire, qui semblent banales et qui semblent être des problèmes. Oh, je suis encore malade. Alors qu'il y a une couverture santé et qu'on récupère une grande partie de nos dépenses en soins maladie, tout ça, c'est digne de roi et de reine des temps modernes. Et donc, être conscient de tout ça et combattre le cynisme ambiant, ça permet aux auditeurs de s'ouvrir à des idées nouvelles, à d'autres façons de voir les choses et à d'autres actions à mettre en place pour se sentir mieux. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, je prends des notes très, très sérieusement, mais je vois tout à fait.
Ah ben c'est une bonne chose, on va en parler de prendre des notes tout à l'heure. Alors prenons l'exemple de l'argent. L'argent. Dieu sait que c'est un sujet sensible et que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens se plaignent d'avoir un revenu insuffisant pour joindre les deux bouts, par exemple, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on entend dire? Oui, tu te rends compte, on travaille à deux avec mon mari, on a juste deux enfants et on n'y arrive pas. Quand on voit ces gens-là qui ne font rien, c'est pour eux qu'on paye, etc. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Parce que l'argent ou le manque d'argent, c'est vrai, ça a une influence très importante sur notre bien-être. Et non pas pour ce qu'il est, hein, parce que accumuler de l'argent sans pouvoir s'en servir, c'est absolument inutile. Moi, je peux ouvrir un compte en banque à tous les auditeurs et leur dire « je vous verse 1 000 euros par mois et on fait les comptes dans 2 ans. Ben, dans 2 ans, vous avez 24 000 euros, d'accord. Mais à quoi ça vous sert si je vous dis « vous n'avez pas le droit de faire un retrait ?» À rien du tout. Donc, accumuler l'argent, c'est complètement stupide et idiot. L'argent doit être vu pour ce qu'il est. Et l'argent, c'est un moyen. Alors, au sujet de l'argent, il y a de très nombreuses fausses croyances qui circulent. Comme par exemple, on ne gagne pas assez en Belgique, en France, en Suisse, etc. On devrait augmenter les salaires. Ou en Belgique, en France, en Europe, plus on gagne, plus on paye d'impôts. C'est stupide. On entend, ça ne sert à rien de travailler si c'est pour enrichir l'État. Mais bon Dieu, c'est stupide. On ne travaille pas pour enrichir l'État. On travaille pour notre bien-être à nous. On travaille pour augmenter notre qualité de vie. On travaille pour laisser un héritage. On travaille pour que nos enfants soient mieux que nous. Voilà pourquoi on travaille. Et surtout, il faut mettre les choses en perspective. Alors Caroline, si tu prends des notes, prends note de ce site internet. C'est www.globalrichlist. Donc ça s'écrit GLOBALRICHLIST.com. globalrichlist.com a été mis en place par une organisation de bienfaisance, une organisation caritative, qui a fait une statistique mondiale des revenus. D'accord ? Et on dit, voilà, il y a 8 milliards, 7 milliards d'êtres humains sur Terre, une grande partie de ces gens-là gagnent de l'argent, ont un revenu, eh bien on va diviser le revenu total par le nombre d'habitants. Et on va voir comment vous vous situez, vous qui venez sur notre site, d'accord ? Par rapport aux gens les plus pauvres et aux gens les plus riches, d'accord ? Et donc, il y a une petite fenêtre là, sur ce site, et il suffit d'indiquer notre revenu annuel et de cliquer sur un bouton. Et là, on a le résultat et on voit où on se situe par rapport à la moyenne mondiale. Eh bien, Caroline, si Monsieur Dupont empoche un revenu mensuel de, et je le mets entre guillemets, de seulement 1500 euros et qu'il ne le satisfait pas, eh bien, s'il indique sur ce site qu'il gagne 18 000 euros par an et qu'il clique sur le bouton, eh bien, Monsieur Dupont va voir qu'il fait partie des 11% des gens les plus riches de la planète. Alors, les cyniques, ils vont me dire, ah ben oui, mais il y a une certaine différence entre faire 1500 euros par mois à Liège ou à Bruxelles ou 1500 euros à Bangkok. Ah oui, merci beaucoup pour l'info, mais il y a une différence de taille, c'est vrai. C'est que pour gagner 1500 euros par mois à Bangkok ou dans un pays africain, il faut fournir 10 fois plus d'efforts qu'à Bruxelles. Et pour info, hein, quelqu'un qui aurait le courage, la chance de se créer un revenu de 3000 euros par mois, eh bien aujourd'hui c'est possible, hein, 3000 euros par mois. Je le dis à tous les auditeurs, vous pouvez doubler votre revenu sans doubler vos impôts. Vous n'avez pas besoin de demander une augmentation à votre patron. Vous n'avez pas besoin de vous diminuer et de vous mettre à plat ventre pour ça. Il y a des tonnes de moyens au XXIe siècle pour que chacun, chacune qui écoute cette conférence puisse atteindre un revenu de 3000 euros par mois et plus. Eh bien, tu sais quoi, Caroline ? Avec 3000 euros par mois, quand tu tapes ça sur le site globalrichlist.com et que tu cliques sur le bouton, eh bien, tu vas te rendre compte que quelqu'un qui gagne 3000 euros par mois fait partie du 1% des gens les plus riches de la planète. Le top 1%. Alors la vérité, et je sais qu'elle peut sembler cruelle, c'est que si quelqu'un est connecté là et nous écoute, qu'il a un toit, qu'il a un accès à Internet et qu'il participe à cette formation de pensée positive, tous ces gens font partie intégrante d'une élite mondiale. Parce que qu'on le croit ou pas, il y a des centaines de millions de personnes qui sont prêtes à mourir, à quitter famille, femme, enfant, hutte, village. Ils sont prêts à mourir pour venir écouter ce qu'on est en train de dire. Ils sont prêts à mourir pour rejoindre notre continent. Alors nous, notre responsabilité, c'est d'arrêter de nous plaindre par respect pour ces gens-là. Parce que quand je vois quelqu'un qui est planté devant son frigo et qui dit « je ne sais pas ce que je vais manger aujourd'hui », eh bien pour moi, cette personne-là, elle fait insulte à milliards de gens sur Terre. Alors, ok, là c'était la partie « je distribue les baffes ». mais tu me connais. Moi, je ne suis pas comme ça au fond. J'adore les gens, j'aime aider, j'aime voir les gens évoluer. Alors maintenant, on va vraiment partir dans les trucs pour faire le clic. Ok ? Tu es d'accord avec moi ?
Ah oui.
Ok. Alors, une des premières choses, c'est d'être désireux d'apprendre. Comme l'a dit Albert Einstein, on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée que celui qu'il a créé. Si vous avez des problèmes, et tout le monde a des problèmes, la seule issue est de vous améliorer dans la résolution de ces problèmes. On ne peut pas espérer que la solution vienne de l'extérieur. On ne peut pas attendre qu'un homme ou qu'une femme un jour croise notre route et nous mette sur de bons rails. On ne peut pas espérer ça. Parce que si on attend ça et que cet homme ou cette femme ne vient pas, on est dans la merde. On a le devoir de se prendre en charge. Et donc, on doit être désireux d'apprendre. Et je sais, on entend partout des gens qui disent « Ah, moi, l'école, je n'aimais pas. Lire des livres, je n'aimais pas. » Mais il faut passer par là. Il faut passer par là. Ce n'est pas parce que le gouvernement va changer de couleur, ce n'est pas parce que ça va être des bleus, des rouges, des jaunes, des verts à petits pois que ça va changer. Si notre voisin a du mal à payer son loyer à la fin du mois, ce n'est pas parce que le gouvernement va changer qu'il aura plus de facilité à payer son loyer. C'est une blague, c'est de la fumée. On ne peut pas croire ça. Donc on doit prendre la responsabilité que nous devons apprendre à résoudre nos problèmes. Ensuite, on doit apprendre à se détourner des gens qui se plaignent sans cesse. Je sais que c'est moche de dire ça, parce que ça signifie qu'il faut peut-être se détourner de certains de nos amis les plus proches. Je sais que c'est moche, parce que ça signifie peut-être qu'il faut éteindre la télévision, qu'il faut couper la radio, ou qu'il faut arrêter de lire la presse. Je sais que c'est difficile. Parce que c'est tellement rentré dans nos habitudes qu'on se dit « Waouh, je perds un ami si j'éteins la télé ». Mais non, on perd un ennemi et on gagne un ami. Et tu sais qui est l'ami qu'on gagne, Caroline, en éteignant la télévision ?
Soi-même.
Oui. Exactement. On gagne un ami et c'est soi. On se détourne du bruit confus qui est là et qui nous martèle des mauvais messages sans cesse et on se tourne enfin vers soi-même. Et si on n'a pas des gens positifs autour de soi, c'est pas compliqué, il suffit de les chercher. Et comme disait l'adage, qui cherche trouve. Troisième chose que l'on peut faire, c'est lire des livres et participer à des formations de développement personnel, comme celle-ci, mais de manière intensive. On ne peut pas se permettre de dire « Ah ben voilà, j'ai participé au sommet mondial de la réussite, c'était génial, il y avait 16 experts, tous triés sur le volet, j'ai écouté leurs conférences, ça y est, c'est parti mon kiki, je suis une nouvelle personne. » Non, ça c'est le début. Alors il y a trois livres que moi je conseille toujours. Parce qu'on me demande souvent quels sont les trois livres, les meilleurs livres pour bien débuter. Ben c'est simple, il y en a trois que je suggère sans cesse et ce sont trois livres à lire dans l'ordre. Le premier, c'est L'homme le plus riche de Babylone, Josh Clayson. Alors, c'est un livre qui dévoile l'histoire d'un homme qui est parti de rien et qui devient l'homme le plus riche et respecté de tout Babylone au temps de sa splendeur. Et en quoi il est intéressant ? Ben c'est parce qu'il est rédigé sous forme d'histoire, qu'il est très facile, très accessible, très agréable à lire. Et là, vous allez découvrir les actions simples et la mécanique qui régissent le flux de l'argent et de l'accomplissement de soi. C'est vraiment un livre empli de sagesse. Le deuxième, c'est « Comment se faire des amis et influencer les autres » de Dale Carnegie. Parce que qu'on le veuille ou non, soit on influence les gens, soit on est influencé par les gens. Et dans la plupart des cas, on est influencé par les gens. Et ce livre, qui est un grand, grand, grand classique du développement personnel, enseigne les bases de la communication efficace et épanouissante, que ce soit avec votre époux, votre épouse, vos enfants, vos collègues, etc. Combien de fois nous sommes pas dit « on ne s'est pas compris ». Elle a rien compris de ce que j'ai voulu lui dire. C'est incroyable, dès que je commence à dire quelque chose, elle se ferme comme une huître. C'est plus possible de discuter avec ma femme. C'est plus possible de discuter avec mon fils. Mais c'est l'âge ingrat, hein, ça va passer. Non, ça n'a rien à voir avec l'âge ingrat. Ça a à voir avec les mots que nous utilisons. Les mots que nous utilisons provoquent une réaction chez les gens à qui nous adressons. Point barre. Eh bien, ce livre, « Comment se faire des amis et influencer les autres » est un trésor, est une mine d'informations pour modifier et adapter notre manière de parler aux autres. C'est un véritable must. Et le troisième livre, c'est « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill. Alors, c'est vraiment à lire en dernier parce que c'est un livre beaucoup plus abouti, un poil plus difficile. Napoléon Hill est parti à la rencontre des hommes et des femmes les plus célèbres et des plus grands penseurs de son temps. Il les a interviewés afin de déterminer s'il existe des points communs, une sorte de trame commune au succès. Eh ben, devine quoi, il a découvert que ces points communs existent et il les révèle dans ce petit chef-d'œuvre de pensée positive. On peut trouver facilement ces livres dans une bibliothèque, à la FNAC, sur Amazon.fr ou mieux, sur un site francophone qui est spécialisé dans le développement personnel que tu connais aussi, c'est libreentreprise.com. Un chouette site qui a été fondé par Yannick Vermuth et son épouse et qui regorge de titres extraordinaires. Alors le petit conseil en plus pour nos auditeurs aujourd'hui, c'est prenez la peine de lire ces livres 7 fois au moins. On ne peut pas se contenter de lire un livre une fois puis de dire « ouais, ça y est, je l'ai compris ». Un livre, c'est comme un film. On regarde un film, « ah oui, il est génial ». Et puis quelques temps plus tard, on le visionne à nouveau et là, qu'est-ce qu'on dit ?« Ah, ça j'avais pas vu » ou « ça j'avais pas compris ». Eh bien, les livres, c'est pareil. Notre cerveau, notre subconscient, accepte les idées qui sont plus ou moins proches de ce que nous croyons et acceptons déjà. Et le livre vient élargir légèrement notre système de croyances, ce qui fait que la fois d'après, nous le lisons avec une paire de lunettes déjà mieux réglées. Et la fois d'après encore, et la fois d'après encore, et la fois d'après encore. Tu sais, il n'y a pas que des livres de développement personnel. Prenons, j'ai 2 livres ici sur mon bureau. J'adore les livres. Pour moi, les livres, je les manipule avec une grande douceur et un infini respect. J'ai 2 livres là. Le premier est de Christian de Duve, probablement inconnu la plupart. Et son livre s'intitule « De Jésus à Jésus en passant par Darwin ». Alors on se dit « oh là là, on va parler de religion, etc. » Non, pas du tout. C'est un livre qui est écrit par un scientifique, parce que Christian de Duve est prix Nobel de médecine. Il est professeur émérite de l'Université catholique de Louvain et de l'Université Rockefeller de New York. Et son livre coûte 9 euros, Caroline. Et pour 9 euros, tout qui écoute cette conversation ici a la possibilité d'avoir une sorte de conversation avec un prix Nobel de médecine qui décrit son itinéraire personnel et scientifique. Est-ce que tu te rends compte? Pour 9 euros, on peut comprendre comment raisonne un esprit qui a gagné un prix Nobel. Pour 9 euros. Et le deuxième livre qui est sous mes yeux, c'est « La physique de l'impossible » de Michio Kaku. Michio Kaku est un professeur, un physicien, un professeur au collège de New York. Il a fait le MIT, le fameux Massachusetts Institute of Technology. C'est un type au génie incroyable. Il est cofondateur de la fameuse théorie des cordes. Cette fameuse théorie qui va plus loin que la théorie de la relativité d'Einstein. Et cet homme, Michio Kaku, écrit des livres de vulgarisation scientifique. Et pour une quinzaine, une vingtaine d'euros, on a une belle brique qui nous explique comment fonctionne l'univers et comment nous en sommes arrivés là. Les livres sont fantastiques. Une autre chose que l'on peut faire, c'est rejoindre un groupe de pensée positive ou de développement personnel. Alors, par exemple, tu sais que c'est mon métier, Caroline, je ne le dirai jamais assez, rien que pour l'aspect développement personnel, ça vaut la peine de s'intéresser au marketing relationnel. C'est une activité qui est en plus de plus en plus prisée parce qu'elle permet d'améliorer ses revenus en quelques heures par semaine sans forcément augmenter ses impôts parce qu'elle fournit d'innombrables avantages fiscaux, mais surtout parce que le marketing relationnel donne accès à des tonnes, à des tonnes, à des tonnes de formations de pensée positive et de développement personnel, et c'est gratuit. Un autre point, et là c'est plus délicat, mais je vais essayer de transmettre l'info au mieux, c'est de prendre 100% de la responsabilité de ce qui vous arrive. C'est le plus haut niveau de maturité qui soit. Pas d'excuses, pas de reproches. Alors ok, c'est pas facile à atteindre, mais c'est une bonne chose de vouloir y arriver. Parce que tout le monde peut trouver des excuses plus ou moins bonnes pour expliquer un manque de chance ou un certain mal-être. Tout le monde peut faire des reproches, je sais pas moi, au gouvernement, au patronat, au syndicat, à ses collègues, à ses proches. Oui, mais c'est une voie facile, parce que faire des reproches n'apporte aucune solution. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés, je leur dis, ne prenez pas cette voie qui place la solution à vos problèmes en dehors de votre champ d'action. De nouveau, comme on l'a dit tout à l'heure, il suffit d'observer les choses avec un certain recul. Vous êtes le décisionnaire de votre vie. Et vous êtes donc exactement là où vous voulez être, même si votre position est aujourd'hui inconfortable. Et chaque fois que je dis ça, ça me fait penser à une petite histoire. C'est l'histoire de ces deux braves hommes qui ont la même éducation et qui vivent côte à côte et qui décident de construire une maison. Ce sont deux braves gaillards, deux hommes honnêtes, deux hommes bons comme le pain. Cependant, et c'est là tout le drame, alors tous les deux bons et n'avaient que des points communs, il y en a un qui construit sa maison sur le sable, pendant que l'autre construit sa maison sur les rochers. Et il n'y a rien à faire. Ça ne suffit pas d'être une bonne personne. Ça ne suffit pas d'être gentil. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut en plus faire les bonnes actions et construire sur le roc. Et pour construire sur le roc, il faut apprendre comment on fait pour construire de façon solide. Tu vois ? On a le choix. On a quasiment toujours le choix. Il suffit de prendre les bonnes options. Et la bonne option, c'est de construire votre vie sur de solides fondations. Alors j'ai préparé quelques petites affirmations positives pour vous aider dans cette voie. Une de celles-ci, c'est par exemple, fais toujours de ton mieux pour avoir tout ce qui t'intéresse.
Fais toujours de
faire
ton mieux.
De ton mieux pour avoir tout ce qui t'intéresse. C'est simple, toujours faire le mieux, pas le minimum, pas ce pourquoi on me paye, je suis payé jusque 16h30 à 31, je suis dans ma bagnole. Non, toujours faire mieux. D'ailleurs, Jim Rohn, que tu connais aussi, son mentor, qui s'appelait Earl Schoff, lui disait, Jim, travaillez pour votre patron comme si c'était pour vous, même s'il ne vous augmente pas, parce qu'en faisant ça, vous faites vous-même un investissement sur votre propre futur en développant une discipline personnelle qui vous apprend à toujours faire mieux. Une autre citation, une autre petite affirmation, c'est « Pour que les choses changent pour toi, tu dois changer. » Une autre que j'adore, « N'espère pas que ce soit plus facile, deviens plus fort. » Dans le même ordre d'idées, n'espère pas moins de problèmes. Tout le monde a des problèmes. Alors n'espère pas moins de problèmes. Deviens plus compétent pour résoudre ces problèmes. Ne dites plus c'est tout ce que mon patron paye. Dites plutôt c'est tout ce que mon patron me paye. Parce que mon patron, il a d'autres salariés que moi et il les paye mieux que moi. Donc si je me requalifie pour un meilleur poste, si je m'améliore, alors mon patron me payera mieux. Ne plus dire ça coûte trop cher. dire « je ne sais pas me le permettre pour le moment » et faire le nécessaire pour s'améliorer afin de pouvoir vous permettre tout ce que bon vous semble. Et alors là, la grande finale dans la partie affirmation positive, c'est si vous voulez un résultat différent de tout le monde, eh bien cessez de penser, de parler et d'agir comme tout le monde. Puisque tout le monde se plaint, arrêtez de faire comme tout le monde. Oui ?
Oui.
C'est dur, je sais que c'est un peu dur. Mais en formation de pensée positive et de développement personnel, on remet la responsabilité là où elle doit être, c'est-à-dire dans nos mains. Et tu sais, il y a un truc qui me fascine toujours. C'est le peu d'estime personnelle que la plupart des gens ont. C'est quelque chose qui m'attriste vraiment beaucoup. Et je jette pas la pierre, parce que moi, il y a quelques années, j'avais l'impression d'être un tocard. Je le dis tel que je le pense, j'avais l'impression d'être un sous-produit, un truc infâme. Parce que tu sais, quand tu reçois la visite de deux huissiers aussi sympathiques qu'une porte de prison, et qu'ils prennent note de tous tes biens, y compris, excuse-moi de l'expression, mais de couillonnades qui n'ont aucune valeur, comme un pouf à 15 euros que j'avais acheté chez Ikea, eh bien, crois-moi, Caroline, tu n'as pas une très haute estime de toi, hein, dans des moments pareils. Tu te dis, c'est comme un viol. Et donc, je ne jette pas la pierre à ceux qui manquent d'estime d'eux-mêmes. Mais j'ai envie de leur dire ceci. Il y a tellement de choses autour de nous, de belles choses. On a parlé tout à l'heure de pousser sur un interrupteur et pouf, la lumière illumine toute la pièce. C'est extraordinaire. On n'a pas besoin de comprendre comment ça se fait qu'en poussant sur un bouton, pouf, il y a des luminaires qui projettent leurs rayons au travers de la pièce. Mais on peut être reconnaissant simplement pour ça. Alors les gens me disent, bah oui, 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 bah oui, oui, d'accord, oui, oui, je sais, je sais, je sais. Mais en attendant, j'ai un problème d'estime personnelle quand même. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent, qui s'intéressent à l'univers, aux étoiles, aux galaxies, etc. Moi, c'est quelque chose qui me fascine. Je peux passer des heures, et je le fais, je peux passer des heures couché dans l'herbe en été à observer les étoiles pendant la nuit. Et je me dis, bon sang, bonsoir. C'est quand même extraordinaire, hein, ça. Regarde un peu toutes les étoiles qu'il y a là-haut. Regarde un peu toutes les galaxies. Et du coup, un jour, ben, j'ai franchi un cap. Et j'ai commencé à me documenter sur l'univers, comment ça fonctionne, les mécanismes, les lois qui régissent la rotation de la Terre autour du Soleil, la naissance du Soleil, la naissance du système solaire, la naissance de notre galaxie. Et j'ai découvert des choses incroyables. Par exemple, on sait aujourd'hui que le Big Bang, il a eu lieu il y a 13,7 milliards d'années. Et que lors du Big Bang, tiens-toi bien et fais avec moi en même temps que moi, lève les doigts. Tu vois, comme si on comptait 1, 2, 3 en montrant les doigts. Eh bien, suis-moi. En un millionième, de millionième, de millionième, de millionième, de millionième, de millionième de seconde, normalement, tu as levé le doigt 6 fois.
Oui.
Eh bien, en ce laps de temps infinitésimal, la taille de l'univers est passée de celle d'un atome à celle d'une galaxie. Ouch ! Une galaxie fait 100 000 années-lumière de taille en moyenne. Ouf ! Alors, les gens ils me disent, ah oui, oui, oh, waouh, c'est impressionnant. Et en quoi ça m'aide? Eh bien, c'est qu'ensuite, tout l'hydrogène de l'univers a été créé en quelques milliers d'années. Toute l'énergie qui existe aujourd'hui dans l'univers a été produite à ce moment-là. Et alors, je ne sais pas si tu sais ça, Mais l'hydrogène est un des éléments les plus abondants dans l'univers. Oui.
Non, je ne savais pas, mais je l'apprends.
Voilà, l'hydrogène est un des éléments les plus abondants de l'univers. Et l'hydrogène constitue l'eau. Tout le monde sait que la formule de l'eau, c'est H2O. Tout le monde sait ça. Mais l'oxygène, d'où vient-il, lui? Eh bien, l'oxygène, Caroline, il a été créé au cœur des étoiles. C'est-à-dire qu'au début de l'univers, il y avait de telles quantités d'hydrogène, ça formait des nuages de gaz. Et à un moment donné, la force de gravité a fait son travail. Et ces nuages de gaz, d'hydrogène, se sont effondrés sur eux-mêmes. Mais ça prenait des millions d'années, hein. Quand on dit effondrer, on a l'impression que c'est subi. Non, ils se sont écrasés comme ça sur eux-mêmes. Et à un moment donné, quand la température du nuage atteint 1 million de degrés, alors des réactions nucléaires se mettent en place et une étoile naît. Et au sein de cette étoile, les atomes d'hydrogène s'entrechoquent de manière colossale. Et à force de s'entrechoquer, ça crée des nouveaux éléments. L'hélium, le carbone et l'oxygène. Et les étoiles créent les éléments jusqu'au fer, jusqu'à l'atome de fer. D'accord?
Oui.
Et donc, Caroline, lorsque nous buvons un bête verre d'eau, nous prenons dans nos mains et nous ingurgitons dans notre corps le résultat de quelque chose qui a eu lieu il y a 13,7 milliards d'années et qui a pris des centaines de millions et des milliards d'années à être produit au cœur même des étoiles. Quand on fait glou, 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 comme ça, quand on prend une douche, je sais que je peux vous paraître idiot, mais chaque fois que je prends une douche, je dis un truc du style, merci l'univers, mon Dieu que c'est bon. Et je ne sais pas si tu as déjà remarqué, Caroline, mais tous les êtres humains sont composés à 70% d'eau.
Oui, ça je sais.
Donc, on peut strictement dire que chaque être humain est composé de poussière d'étoiles. Et que nous sommes absolument extraordinaires. La matière dans l'univers représente 0,0001% de tout ce qui existe dans l'univers. 0,0001%. Et ce 0,0001%, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est tous les êtres vivants et tous les êtres humains de la planète. Nous sommes rarissimes. Nous sommes le résultat d'opérations qui ont duré des millions, des milliards d'années. Nous sommes extraordinaires. Nous sommes fantastiques. Et il ne faut jamais le perdre de vue. Jamais. Et c'est pour ça, j'ai entendu que tu disais tout à l'heure qu'on me surnomme le prince du MLM. D'où vient ce surnom? Parce que je ne viens pas d'une famille royale ou quoi que ce soit. D'où vient ce surnom? C'est simple. C'est ma grand-mère. Lorsque j'étais tout petit, aussi loin que je me souvienne, j'étais haut comme 3 pommes, je devais avoir 3-4 ans. Ma grand-mère, je ne sais pas pourquoi, elle me disait, toi, Mitou. Mitou, c'est un mot dans le dialecte de ma région, ça veut dire mon tout. Et elle me disait, toi, Mitou, tu es un prince. Toi, tu pourras obtenir tout ce que tu voudras dans la vie. Rien ne te sera impossible. Elle m'a répété ça, mais longtemps, jusqu'à ce qu'elle décède d'une crise cardiaque lorsque j'avais 14 ans. Et elle est décédée chez moi, en plus. Eh bien, malgré tous les problèmes, malgré les huissiers, malgré les dettes, malgré la perte d'estime, je n'ai jamais oublié ce que ma grand-mère a dit. Et aujourd'hui, je voudrais dire ce que ma grand-mère disait à tous les auditeurs. Et à toi aussi, Caroline. Vous êtes des princes, vous êtes un prince, tu es une princesse. Rien ne t'est impossible. Parce que le fait même que tu respires, le fait même que tu sois là en train d'écouter les mots qui traversent les ondes, le fait même que nous soyons en mesure d'enregistrer ceci et de le diffuser à des milliers de gens, montre à quel point nous sommes exceptionnels et à quel point tu es exceptionnel et à quel point chaque auditeur est absolument merveilleux. Alors, en parlant de merveilleux, j'ai préparé, parce que je pense qu'on va arriver tout doucement au terme de notre formation.
Oui.
J'ai repris un texte que j'ai trouvé absolument merveilleux, absolument fantastique. Et j'espère qu'il va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup des auditeurs. Alors, je vais le lire. C'est un texte qui s'intitule « Le jour où je me suis aimé pour de vrai ». La légende dit que c'est Charlie Chaplin qui l'a lu ou qui l'aurait écrit. On n'a pas vraiment la réponse. Mais tu sais quoi, on s'en fiche, parce que le texte, il est fantastique. Alors je vais le lire. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai compris qu'en toutes circonstances, j'étais à la bonne place, au bon moment. Et alors, j'ai pu me relaxer. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'estime de soi. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai pu percevoir que mon anxiété et ma souffrance émotionnelle n'étaient rien d'autre qu'un signal lorsque je vais à l'encontre de mes convictions. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'authenticité. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai cessé de vouloir une vie différente et j'ai commencé à voir que tout ce qui m'arrive contribue à ma croissance personnelle. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle la maturité. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai commencé à percevoir l'abus dans le fait de forcer une situation ou une personne dans le seul but d'obtenir ce que je veux, sachant très bien que ni la personne ni moi-même ne sommes prêts et que ce n'est pas le bon moment. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle le respect. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai commencé à me libérer de tout ce qui n'était pas salutaire, personne, situation, tout ce qui baissait mon énergie. Au début, ma raison appelait ça de l'égoïsme. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'amour propre. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai cessé d'avoir peur du temps libre et j'ai arrêté de faire de grands plans. J'ai abandonné les méga projets du futur. Aujourd'hui, je fais ce qui est correct, ce que j'aime, quand cela me plaît et à mon rythme. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle la simplicité. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai cessé de chercher à avoir toujours raison et je me suis rendu compte de toutes les fois où je me suis trompé. Aujourd'hui, j'ai découvert l'humilité. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai cessé de revivre le passé et de me préoccuper de l'avenir. Aujourd'hui, je vis au présent, là où toute la vie se passe. Aujourd'hui, je vis une seule journée à la fois, et cela s'appelle la plénitude. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai compris que ma tête pouvait me tromper et me décevoir. Mais si je la mets au service de mon cœur, elle devient une alliée très précieuse. Tout ceci, c'est le savoir-vivre. Nous ne devons pas avoir peur de nous confronter. Du chaos naissent les étoiles. Qu'est-ce que tu dis de ça, Caroline?
J'adore. Du chaos naissent les étoiles. C'est ton rajout, ça, grâce à toutes tes études?
Et non,
études.
C'est parce que je trouvais que ça faisait bien le clic, justement.
Tout à fait.
Et ce que j'ai envie de dire, parce qu'on ne va pas terminer sur un texte aussi merveilleux soit-il, ça fait un peu impersonnel. Ce que j'ai envie de dire à tous les participants, d'abord, j'ai envie de vous transmettre toutes mes félicitations les plus chaleureuses pour avoir écouté ceci, pour avoir consacré du temps, pour avoir pris des notes. Votre présence et votre implication ici font déjà de vous quelqu'un de très spécial et de d'absolument différent d'un très très grand nombre de gens. Et dites-vous bien que vous n'êtes pas venu ici par hasard. Quelque chose ou quelqu'un vous a conduit jusqu'à cette conférence, jusqu'à ce sommet mondial de la réussite. Alors faites tout ce qui est en votre pouvoir pour développer ce sixième sens qui est tellement utile, qui consiste à oser aller au-devant des bonnes choses. On a souvent peur d'aller devant les bonnes choses. Nous avons tous été bercés par les proverbes qui affirment que c'est trop beau pour être vrai, que si c'était si simple, tout le monde le saurait, ou arrête de rêver, reste à ta place, tu n'es que l'enfant de deux ouvriers, comme je le disais tout à l'heure. Et pourtant, rien d'extraordinaire n'a jamais, jamais, jamais été accompli suite à l'application de ces préceptes de grand-mère. On doit plutôt se dire, c'est pas parce que j'ignore que ça existe que ça n'existe pas. Alors modifiez votre paradigme. Vous êtes extraordinaire. Rien ne vous est impossible. Ne laissez plus jamais personne détruire vos rêves. Car personne, personne, ni Caroline, ni moi, ni vos parents, ni vos enfants, ni vos proches, ni votre époux ou votre épouse, personne n'est dans votre esprit et dans votre cœur. Vous êtes la seule personne au monde qui entend cette petite voix qui vous chuchote d'y aller, d'oser, de tenter et de faire autrement et d'espérer gagner. Alors écoutez cette voix, parce que vous savez, il n'existe probablement pas de plus grand plaisir au monde que de réussir là où tout le monde vous voyait échouer. Alors cette formation, allez, on va dire que ce n'était qu'un début, mais c'est le plus important. Vous avez fait le bon premier pas dans la bonne direction. Ok, il y a une montagne qui est face à vous, majestueuse et sublime. Elle est aussi effrayante, d'accord, et elle fait peur, d'accord. Mais la peur, vous savez, ça n'est jamais qu'un truc que l'ami, la vie met devant vous pour vous tester. Alors allez-y, allez au-delà de vos peurs, un pied après l'autre, avec constance et persistance, jusqu'au jour béni où vous serez au sommet de la montagne, au sommet de votre montagne. Et là, vous aurez une vue époustouflante, grandiose et uniquement réservée à ceux et celles qui disent « ça n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire ». Merci beaucoup pour votre attention et bon succès à tous. Au revoir Caroline.
Au revoir Jean-Phi, merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir écouté cette conférence tout à fait dynamisante et enthousiasmante, et à tout bientôt à tous.
Ah Caroline, il y a quelque chose, il y a une chose à laquelle je tiens absolument avant de conclure définitivement, si tu me permets, c'est de rendre un hommage à Christian Godefroy. Christian Godefroy vient de nous quitter à l'âge de 64 ans, donc beaucoup trop tôt. C'est quelqu'un qui a énormément compté pour moi. C'était un ami, c'était un mentor, etc. Et je veux dire quelques mots pour lui, si tu permets.
Mais bien sûr.
Oui. Alors, en fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, Christian, c'était le premier géant de l'Internet francophone. C'est lui qui a ouvert la voie, c'était le pionnier. Et aujourd'hui, il laisse une épouse éplorée, des enfants déchirés, des collaborateurs consternés et des centaines de milliers de lecteurs vraiment dans la stupeur. Et il y a un mot très simple, un seul mot, qui permet de décrire Christian Godefroy, qui était un être d'une qualité exceptionnelle, c'est amour. Amour. Christian Godefroy avait et cultivait l'amour de l'amour. L'amour de la vie, l'amour de l'apprentissage, l'amour du travail et l'amour des livres. Il rayonnait et il rugissait comme un lion. Il avait son génie et son sens du partage étaient tellement développés qu'il s'était glissé au cœur de nos cœurs. Christian Godefroy, on l'a dit, c'était un père, un grand frère, un mentor. Et il était et il restera un visage et une voix qui se détachera à tout jamais du bruit confus du web et s'en détachera comme une rose rouge éclatante qui perce le brouillard et la neige. Il venait d'avoir 64 ans, oui, mais c'était un éternel gamin facétieux, comme je dis, aux blancs cheveux. Il avait une insatiable curiosité, une finesse et une rapidité d'esprit, une ouverture à autrui, une disponibilité et une générosité qui n'avaient pas d'égal. Lui, il n'avait pas besoin de parler fort pour être écouté, il n'avait pas besoin d'en faire des caisses pour impressionner, il n'avait pas besoin d'imiter pour gagner en crédibilité. Il était une sorte de force tranquille, il avait ce charisme comme ça. Il était le seul, et il restera le seul et unique, Christian Godefroy. Toutes mes condoléances et mes pensées les plus chaleureuses, les plus affectueuses vont à Emilia, son épouse adorée, à ses merveilleux enfants, Jessica, Alexandre, ainsi que Tao et Cyril, à ses plus proches collaborateurs pour qui il avait tant d'estime, ainsi qu'à tous ceux, et Christian sait à quel point ils sont nombreux, que sa disparition plonge dans l'émoi et dans l'incrédulité. Vraiment, on vient de perdre un monument, quelqu'un qui restera à jamais gravé dans nos mémoires, qui laisse un trésor en héritage. Il suffit de taper Christian Godefroy sur Google et on va trouver une multitude d'informations très précieuses en accès totalement gratuit. Il laisse des cours absolument fantastiques et il laisse toute une génération d'entrepreneurs du web dont je fais partie parce que j'ai écrit un livre avec Christian et des tas d'autres. Et ça, c'est son plus bel héritage. Moi, je ne pourrai jamais, jamais, jamais oublier cet homme qui était un être délicieux et fantastique. Donc voilà, je tenais absolument à dire quelques mots pour lui rendre hommage. Ça casse un peu l'ambiance, mais je pouvais pas, Caroline. Donc voilà, merci de m'avoir donné l'opportunité de le faire.
Mais écoute, c'est avec plaisir parce que je suis de tout cœur avec toi pour souhaiter toutes mes condoléances à sa famille et que je pense que tous les auditeurs du web qui nous écoutent, il y en a déjà une grande partie qui le connaissent également et à mon avis qui se joignent à nous. Donc merci de l'avoir fait d'ailleurs, cet hommage et en fait très probablement j'ai pu enregistrer Christian et nous pourrons l'entendre en fin de sommet parce que ce sera aussi une manière de lui rendre hommage. Donc merci Jean-Philippe d'avoir fait ça. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt.
À très bientôt à tous et à toi Caroline. Bye bye.
Bye.